je te laisse présenter Floriane, voilà.
Voilà, on va entendre une voix féminine pour une parole féminine. Donc Floriane Mercier, qui est chef du bureau des pratiques et de l'éducation artistique et culturelle à la DGCA, qui est évidemment l'interlocutrice pour la DEPAD. Et on parlait de la loi CAP, de l'article 17A, mais peut-être on peut en parler un petit peu plus avec vous.
Oui, oui.
Voilà. Et qu'est-ce que l'État donc, a voulu inscrire vraiment dans cette loi et notamment comme garantie de liberté pour l'enseignement des arts et qu'est-ce que l'État donne, qu'est-ce qu'il inscrit pour les collectivités, enfin, la relation collectivité territoriale, État, enfin, on est en plein au cœur de la
question.
Voilà. On est vraiment dans le sujet. Voilà.
Oui, merci. Alors je crois qu'effectivement on peut partager le constat qu'effectivement la création artistique est libre, article 1er, sans moyens. Comment elle le serait, c'est compliqué, ça je pense qu'on est tous d'accord sur ces questions-là. Après, il y a la question des moyens de l'État, tout simplement, qui aussi sont contraints, comme je vous l'avais dit. Donc on joue dans un périmètre qui est lui-même très contraint, d'où effectivement des petits passages comme ça où on voit un phénomène, il faut bien le dire, un peu de yo-yo quand même, hein, entre on y va, on n'y va pas. Avec cette particularité, je crois qu'il faut le dire quand même sur les conservatoires, on est un endroit de politique publique un peu singulier, puisque finalement, ça n'a jamais été une compétence de l'État en soi, au contrairement à l'enseignement, l'éducation nationale, puisque c'est toujours au départ les collectivités, enfin je veux dire le 19e siècle, vous l'aviez d'ailleurs rappelé dans le colloque, effectivement, où c'était pas.
Le plan Landowski.
Alors, le plan Landowski, certes, c'était une organisation de l'enseignement artistique spécialisé, mais au départ, ceux qui ont commencé à construire les conservatoires et y mettre de l'argent, c'était les collectivités. Donc on joue, moi j'appelle ça un petit peu le péché originel du départ, c'est-à-dire que l'État avait rapidement, il faut le dire quand même, mis des moyens importants hein, sur ces lieux financés par les conservatoires, mais jamais à la hauteur non plus de l'organisation finalement d'un enseignement artistique spécialisé égalitaire comme on peut avoir avec l'éducation nationale. Même si effectivement, sur le plan Landowski, on a eu cette volonté très forte d'organiser le territoire, d'apporter avec ces noms différents qui aujourd'hui ont changé, finalement un repère pour les usagers sur à quel niveau on se situait dans justement cette double tension, parce que parfois c'est une tension, mais ça ne devrait pas l'être, mais entre les deux missions qui est cette initiation et cette pratique amateur et l'autonomisation des amateurs, et parfois le choix de certains élèves d'aller vers une pré-professionnalisation et ensuite une professionnalisation. Et donc ça, c'est vrai dans cette histoire-là. Et voilà, c'est un mot qui va vous dire qu'on ne manque pas de moyens. Mon bureau serait ravi d'avoir beaucoup plus d'argent à donner au conservatoire que ce qu'il a. Après, le choix qui a été de refinancer effectivement les conservatoires a été fait dans un choix de direct avec des nouveaux critères qu'on a essayé de construire en concertation pour le coup avec les collectivités territoriales. Je crois qu'effectivement, il y a une attente très forte des collectivités. Finalement, on l'a entendu hein, dans le cadre du Conseil des collectivités territoriales du développement culturel, lorsqu'on a fait les auditions. Certes, un besoin de financement et aussi un besoin de reconnaissance de cadre sur la procédure de classement. Et j'en parle parce que ça renvoie à la question de la liberté, puisque sur cette question de la liberté d'enseignement qui est le cœur du sujet aujourd'hui, je crois que le classement est donc par ricochet, c'est un schéma d'orientation pédagogique que vous connaissez bien et qui en sont. Alors, qui ne sont pas un critère en soi aujourd'hui tel que c'est écrit dans l'arrêté de classement, hein, mais qui le sous-tendent ces critères. Effectivement, ces schémas d'orientation pédagogique vous donnent tous une liberté dans les choix que vous faites. Cette liberté qui est toujours, comme vous l'avez rappelé, la liberté c'est toujours compliqué, hein, c'est un construit. Et forcément, cette liberté, quand on est fonctionnaire, elle n'est pas la même que quand on n'est pas dans un cadre de fonctionnaire. Mais en tout cas, ces schémas d'orientation pédagogique, ils vous donnent cette liberté. Et je crois qu'avec la loi, le fait, alors ça c'est une des petites choses plutôt positives de cet article, en plus 17A, on a mis un article 51 non, dans la version adoptée, c'est quand même que ces schémas sont désormais inscrits dans la loi. Donc ça leur donne pour le coup, là je crois, une portée très législative qui n'était pas existante jusqu'ici et qui vous conforte aussi dans ce que l'État donne comme cadre, dans les libertés que ça vous procure dans l'enseignement. Voilà, alors après on reste dans cette liberté pédagogique et finalement elle est pour le coup assez symétrique à celle qui est offerte aux enseignants d'éducation nationale, puisque leur liberté pédagogique à eux, elle est définie par la loi, hein, dans le code de l'éducation, mais elle est toujours dans le cadre de programmes. Elle reste contrainte à celle des programmes. Donc finalement, on est sur une symétrie pas totale, puisque voilà, on est sur un cadre un peu différent, mais finalement, ces schémas d'orientation pédagogique, ils sont bien là pour à la fois cadrer et à la fois laisser cette liberté. C'est d'ailleurs, on l'a réaffirmé dans... Alors, c'est pas une portée ni normative ni réglementaire, hein, c'est dans la charte de l'enseignement spécialisé. C'est réaffirmé dans la responsabilité qui est la vôtre en tant qu'enseignant de, certes, s'appuyer sur ces schémas d'orientation pédagogique, mais certes aussi avoir le droit de vous en éloigner lorsque le projet le nécessite, lorsque au sein de l'établissement, un projet pédagogique l'anime, quoi, très clairement. Donc ça, je crois que c'est plutôt des garanties, avec de l'autre côté des obligations, certes, qui sont celles, pour la plupart d'entre vous, de fonctionnaires. Hein, vous connaissez bien, je ne vais pas redire là, on pourra en rediscuter, mais ces principes, notamment l'obligation de réserve, qui repose le principe de la neutralité du service public, avec toujours une appréciation particulière, hein, puisque cette neutralité, les auras de réserve, il est jurisprudentiel. Donc, c'est-à-dire c'est l'autorité hiérarchique et le juge administratif, hein, on va rentrer dans les détails, mais qui la garantit. Donc voilà, je crois que là-dessus, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Après, sur l'esprit global d'une politique publique, je crois qu'on peut quand même redire, alors c'est pas toujours évident dans ces temps difficiles qui sont les nôtres, mais que une politique publique, la liberté c'est bien un des piliers, hein, surtout dans le cadre républicain, mais que finalement cet objectif, et c'est pourquoi on justifie qu'aujourd'hui, vous le disiez très bien, c'est une mission de service public, cet enseignement artistique spécialisé, parce qu'on en parle comme si c'était une évidence en fait, mais pourquoi l'enseignement artistique spécialisé serait une mission de service public à part entière? Je crois qu'il faut le redire qu'effectivement, dans les objectifs qui animent une politique publique, l'idée d'avoir finalement des citoyens et des citoyens critiques, émancipés, et pas que dans l'objectif de démocratisation culturelle, puisqu'on le ramène tout le temps à dire d'avoir, c'est construire les publics de demain. Vous voyez, l'accès, effectivement, vous l'avez rappelé dans l'émission, l'accès de tous à la culture, c'est pas que dans cette idée d'avoir des publics de demain, c'est bien aussi que chacun devienne ce citoyen, cette capable d'avoir un esprit critique, un citoyen actif. Et pour ça, je trouve que c'est la réflexion de la philosophe Martha Nussbaum là-dessus est intéressante parce qu'elle parle d'émotions démocratiques. Or, le théâtre, quand on y va, c'est bien des émotions publiques, dans le sens où on part d'émotions, certes, intérieures, privées, mais on le donne à voir, on le partage. Et donc, ces émotions démocratiques, elle en parle en disant que elles sont fondamentales, qu'elles sont forgées par les arts et les humanités, et qu'elles permettent à chacun de développer ses capacités critiques. Il n'y a pas que ça, mais ça y participe. Et je crois qu'elle développe avec ça le concept de capacité. Je crois que c'est très juste. Dans l'éthique de la liberté, c'est bien celle-ci d'une politique publique, c'est d'offrir à chacun d'augmenter son choix des possibles le plus critique possible, de façon la plus critique possible. Et ça, je crois que c'est ce qui justifie que l'enseignement artistique spécialisé et les enseignements artistiques en général, ou tout simplement toutes les actions qui permettent à chacun d'abord des enfants, puisque on part d'abord d'eux, mais ensuite aussi des adultes, vous en accueillez parfois dans vos conservatoires, puissent clairement faire ces expériences sensibles qui participent d'une vie démocratique active. Et là, je crois qu'effectivement, peu importe le positionnement politique, on le défend très clairement quand on a discuté sur les conservatoires de ces objectifs-là. Après, sur la répartition, l'équité territoriale, effectivement, c'est une des obligations du service public. Et effectivement, le cadre de la loi aujourd'hui est assez crée un équilibre assez précaire à ce niveau-là. Clairement, alors on parle beaucoup des cycles spécialisés, pré-professionnels, mais il y a tout ce qui se passe avant. Donc cet endroit-là, il est plutôt, il cristallise les débats parce que bien sûr la compétence qu'a la région de la formation professionnelle en fait une conséquence logique. mais finalement, cet enseignement initial, là, c'est des choses qui sont moins claires, et on sait que l'État a certes mis parfois beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui, très clairement, et pourtant, ça représentait une partie, vous l'avez dit, effectivement, assez limitée sur le fonctionnement des conservatoires. Et quand on a transféré les crédits, quand on parlait des 30 millions, c'est 30 millions quasiment que pour ces cycles d'enseignement spécialisé. Donc il restait tout le reste. Et tout le reste, c'est aussi l'endroit où il nous faut construire et trouver les moyens de construire cette égalité, cette équité sur le territoire. Et là, du coup, le chantier est encore plus grand, par rapport à ce qu'on disait sur les moyens, c'est certain. Voilà, donc c'est pas, je crois qu'il faut pas, pour moi c'est pas tout à fait, on sort pas de cette loi sur un constat d'échec, elle a fait progresser certaines choses, même si les relations collectivité-État sur ces questions vont rester, comme je l'ai dit, complexes, mais effectivement je crois que c'est aussi une histoire, finalement, les conservatoires entre l'État et les collectivités qui est d'emblée, c'est pour ça que je disais un peu le péché originel, parce qu'on sent bien la tension initiale, et bien il va falloir trouver les moyens ensemble de continuer à construire ça. Avec des moyens financiers, alors nous, je prends la casquette de l'administration, hein, on a porté des demandes financières forcément beaucoup plus importantes que celles qu'on connaît aujourd'hui, hein, parce qu'on est autour de, on va dire, en allant vite, en incluant 13 ou 15, suivant qu'on inclut à peu près 2 millions qui se promènent sur l'éducation artistique et culturelle. Opposition d'ailleurs à laquelle je tiens à le dire, je suis complètement... contre. Pour moi, l'enseignement artistique spécialisé participe, c'est un endroit particulier de l'éducation artistique et culturelle, singulier, avec ses spécificités, mais ce n'est pas une opposition, et d'ailleurs je crois que c'est une des raisons, quand vous parlez de la complexité parfois des politiques géopolitiques, qui a conduit à des choix qui semblent absurdes de l'extérieur quand on a le sujet, c'est-à-dire on enlève de l'argent à l'enseignement spécialisé pour en mettre à l'éducation artistique et culturelle, parce qu'il y avait quand même ça aussi parfois dans l'esprit de certains, pas grand plus, mais voilà. Et donc je pense que là-dessus, c'est quelque chose qui... Il va falloir là s'ajuster, pouvoir, j'espère, avoir un peu plus de moyens à mettre sur ces questions-là. Mais en tout cas, on ne fera pas sur cette politique, certes plus de moyens, mais l'économie d'un dialogue permanent entre l'État et les collectivités, ça je crois qu'on l'a bien vu. Et je crois que l'esprit actuel est bien celui de continuer... à avoir ces espaces de dialogue, sans quoi, effectivement, là, on n'aura ni les moyens, ni le cadre et l'envie de faire ensemble. Quoi. Voilà.
Tout à fait. Merci, Floriane. J'ai envie de dire... merci, Floriane. Mais on voit bien quand même que le cadre réglementaire, à un moment donné, garantit quelques libertés. On a parlé au niveau des régions, et là, c'est au niveau du SOP, hein, quand même. Oui. C'est-à-dire la portée, tout d'un coup, réglementaire du SOP, et non plus préconisatrice qu'elle a eue jusqu'ici. Ça, c'est important pour nous, parce que ça nous protège, quand même. Ça nous protège beaucoup. Ceci dit, dans ce dialogue permanent... Tu as raison de souligner collectivité-État, et qui est nécessaire. On voit bien pourquoi, c'est historique, etc. N'oublions pas dans ce dialogue d'y associer les professionnels, puisqu'on parlait de la présence. On parlait de la présence sur le terrain. Et nous aussi, on a notre regard qui est particulier, qui n'est pas le regard politique, qui est le regard des professionnels, le regard très technique des professionnels, on va dire, avec toutes les questions que ça pose. Et on a quelquefois juste été un petit peu absent de certaines discussions. Je jette la pierre sur personne. C'est juste par précipitation, quelquefois. Voilà. On a été un petit peu absent. Et c'est très important qu'on soit présent aussi à un endroit de ce dialogue, en tout cas. Mais je sais que c'est prévu.
Merci.